par actualité.
Bienvenue à l'émission Les Paractualités, c'est Hélène Denis qui vous accompagne en ce 14 novembre 2017. En manchette de l'espoir pour vaincre la maladie de Sanfilippo, un nouveau défi viral pour la recherche sur la SLA, un rêve réalisé au CHSLD de Warwick, besoin urgent d'une réglementation, de nouvelles mesures pour les proches aidants et les nouveaux parents. Les résultats de Pierre Mainville au championnat du monde d'escrime en fauteuil roulant. Et en entrevue, je reçois Jenny Lévesque, coordonnatrice des bénévoles de deux services au Centre d'action bénévole des Chic-Chocs, qui vient nous parler du documentaire « Le bénévolat, une force tranquille » et Mathieu Franqueur, coordonnateur Mouvement des personnes handicapées pour l'accès aux services, le FAS, qui vient, lui, nous parler donc du rapport annuel 2017 de la protectrice du citoyen, Mme Marie Rinfret. De l'espoir pour vaincre la maladie de Sanfilippo, c'est une nouvelle tirée du journal Métro.com. La petite Charlotte, 13 ans, est atteinte du syndrome de Sanfilippo, une maladie neurodégénérative rare et incurable. Aujourd'hui, ses parents sont remplis d'espoir car un nouveau laboratoire dédié à cette maladie vient de voir le jour au centre hospitalier universitaire Le CHU Sainte-Justine. Peut-être qu'on ne sauvera pas notre fille, mais peut-être qu'on va trouver quelque chose qui va améliorer sa qualité de vie et qu'un jour, il n'y aura plus d'enfants atteints de Sanfilippo, espère la mère de Charlotte, Julie Larocque. Si elle parle avec tant de sérénité du destin de sa fille, c'est que le sort de ceux qui souffrent de la maladie de Sanfilippo est sans appel. Ils meurent tous au tout début de l'âge adulte. C'est une maladie génétique qui affecte le métabolisme. Les enfants naissent normaux et on ne peut pas déceler la maladie avant l'âge de 3 ou 4 ans, explique le professeur Alexis V. Chesetsky, qui dirigera les recherches du nouveau laboratoire. Puis, leur comportement change, ils deviennent plus agressifs. Ensuite, ils perdent l'usage de la parole, ils ne peuvent plus apprendre, ils perdent l'usage de leurs jambes vers l'âge de 10 ans. C'est grâce à un don privé de 1 million de dollars que le laboratoire a pu être mis sur pied. C'est la famille Linton qui a offert le montant par le biais de leur fondation, mise sur pied quand Elizabeth et Randall ont appris que leur fille, Elisa, était atteinte de la maladie de Sanfilippo, il y a 19 ans. Depuis le lancement de leur fondation, la Sanfilippo Children's Research Foundation, cette famille torontoise a investi 7,5 millions dans 35 projets de recherche dans 6 différents pays. Une nouvelle sur le site de Radio-Canada, un nouveau défi viral pour la recherche sur la SLA. Une personnalité YouTube met les internautes au défi de manger un piment fort et de verser de l'argent à des organismes de recherche sur la sclérose latérale amyotrophique SLA, à l'instar du défi du saut d'eau glacée de 2014. L'initiative provient d'Andrew Rhea, une personnalité connue sur YouTube pour ses vidéos en lien avec la cuisine. Dans une vidéo publiée le 6 novembre qui a accumulé plus de 975 000 vues depuis Monsieur, Rhea explique que l'idée lui est venue après avoir appris la mort récente d'un de ses plus anciens abonnés qui était atteint de SLA. La SLA est la plus connue et la plus répandue des maladies affectant le neurone moteur. Cette maladie neuromusculaire se caractérise par la dégénérescence d'un ensemble précis de cellules nerveuses au cerveau et à la moelle épinière. Peu à peu, cette détérioration entraîne l'incapacité du cerveau à contrôler tout mouvement musculaire volontaire. Une paralysie progressive se développe donc après l'atrophie des muscles causée par le manque de stimulation de ceux-ci par le cerveau. Andrew Rhea raconte que son abonné, Garnt Van Soest, le contactait régulièrement depuis les débuts de sa chaîne YouTube Binging with Babish pour l'encourager et lui donner des idées. M. Van Soest, qui tenait un blog à propos de sa maladie, et est décrit par M. Rea comme quelqu'un de très positif qui aimait faire rire les gens. Pour rendre hommage à son ami décédé en octobre, Andrew Rea invite donc les internautes de 18 ans et plus à manger le piment le plus piquant qu'ils peuvent endurer. Il établit également une règle, moins le piment est piquant, plus le don à un organisme de recherche sur la SLA doit être élevé. Les participants sont invités à se filmer et à défier 3 de leurs proches à faire de même afin de populariser le défi. Je parle maintenant avec Ginny Lévesque, coordonnatrice des bénévoles de 2 services au Centre d'action bénévole des Chic-Chocs, l'envolée et les visites d'amitié aux personnes aînées isolées, pour justement découvrir le documentaire « Le bénévolat, une force tranquille ». Bonjour Ginny Lévesque.
Oui, bonjour Madame Denis.
Vous allez bien?
Oui, ça va bien. Et vous?
Oui, ça va bien, merci. Avant de parler du documentaire, quels sont les services que le Centre d'action bénévole des Chic-Chocs offre?
Oui, donc le Centre d'action bénévole des Chic-Chocs est situé à Saint-Anne-des-Monts, en Gaspésie. On offre plusieurs services. Dans le fond, on est assez éloigné des villes où se trouvent les hôpitaux de plus grande envergure, comme Rimouski ou Gaspé.
Mm-hmm.
Donc, on offre l'accompagnement transport pour des personnes qui n'ont pas ou peu de moyens pour se déplacer. Donc, c'est des bénévoles qui accompagnent les aînés à l'hôpital, à Québec ou Rimouski. On offre aussi un service d'information aux aînés qui auraient besoin d'informations sur n'importe quel sujet ou pour remplir des documents. On a des bénévoles qui vont à la maison les aider. On offre l'accompagnement en fin de vie, donc pour soulager les proches aidants aussi qui accompagnent quelqu'un en fin de vie, un proche. Puis aussi pour la période de tout le moment où la personne va décéder, on est là aussi et après aussi.
Mm-hmm.
On offre.
Le bénévolat est vraiment au centre de votre organisme.
Ah ben oui, ouais. Complètement. Puis même c'est vraiment essentiel dans la région parce que c'est sûr qu'on ne pourrait pas combler ces besoins-là là, si on n'avait pas de bénévoles. Il y a beaucoup de besoins, beaucoup d'aînés et beaucoup de leurs enfants vivent à l'extérieur de la région. Fait qu'on a vraiment besoin des bénévoles ici. Là.
Vous existez depuis combien de temps?
Je crois que c'est depuis 1984.
Ouais, ah
oui. C'est quand même un bon bout. Là. Oui. Ouais.
Et là, pourquoi avoir réalisé un film documentaire sur le bénévolat?
Dans le fond, on fait régulièrement des soirées d'information et de recrutement. Aussi, information vraiment pour que les gens voient un peu, bon, qu'est-ce qui m'intéresse comme bénévolat, dans quoi je pourrais être le plus, que ça pourrait le mieux se passer pour moi.
Mm-hmm.
Et on n'avait pas d'outils. Souvent, on est obligé de mettre des capsules vidéo, admettons, des petits frères des pauvres à Montréal ou des capsules comme ça, avec des bénévoles d'ailleurs, mais pourtant ici, les bénévoles sont très, très, très impliqués. Ça fait que c'est pour ça qu'on s'est dit, regarde, on va faire un documentaire avec des bénévoles d'ici,
oui.
Mais pas juste du Centre d'action bénévole, vraiment des bénévoles qui travaillent auprès des adolescents, des enfants aussi. On est allé chercher dans différents organismes des personnes impliquées, puis c'est eux qui participent à notre documentaire.
Et quelles ressources ont été nécessaires à la réalisation du documentaire?
Assez basic.
Oui.
Oui, dans le fond, on n'avait pas beaucoup de sous. Puis, il y a quand même moyen, tu sais, avec les cellulaires aujourd'hui, d'avoir une bonne qualité d'image, d'avoir quelque chose d'intéressant. Ça fait que c'était plus au niveau, moi, pendant mon travail, là, j'ai...
Un documentaire tourné à partir d'un téléphone.
À partir d'un téléphone, puis c'est surprenant ce que ça donne comme résultat.
Oui, oui. J'ai déjà vu et c'est vrai qu'on n'y voit que du feu.
On n'y voit que du feu. Puis il y a aussi, c'est sûr, à la fin, là, un ami cinéaste de la région qui a quand même fait le montage final puis qui a travaillé un peu l'image. Mais en général, ça fonctionne quand même bien avec un cellulaire aujourd'hui.
Est-ce que votre documentaire a été présenté jusqu'à maintenant?
Pas beaucoup. On l'a présenté aux bénévoles. Là, on l'a mis en ligne sur YouTube. On commence à en parler. On va avoir une soirée d'information en janvier, fait que je vais le présenter là aussi. C'est là aussi, là, c'est pour la diffusion, comme quand il va y avoir aussi la rencontre des organismes communautaires de toute la Gaspésie, on va le présenter pour que eux, chaque organisme, puisse aussi utiliser cet outil-là dans leurs organismes respectifs pour intéresser les gens à s'impliquer. C'est ça le but aussi,
oui.
le but ultime, c'est de stimuler l'action bénévole dans la région.
Et jusqu'à maintenant,
les gens réalisent que c'est pas, on n'est pas obligé de faire 10 heures de bénévolat par semaine. On peut faire une heure ici et là et ça a quand même un impact considérable.
Oui, c'est vrai. Et jusqu'à maintenant, les gens qui l'ont vu, comment ils réagissent?
Ah, ils sont très, très... Ben, c'est sûr que les bénévoles, là, ils l'aiment beaucoup aussi. C'est bien. On a ciblé aussi ce que chaque bénévole avait de plus intéressant à dire pour que ce soit concis, mais quand même...
Oui, parce que ça dure 15 minutes, hein, votre documentaire. Oui.
Oui. Donc, oui, c'est ça. On est bien contents. Les gens sont bien contents aussi, ceux qui l'ont vu, enfin.
Mais tant mieux, mais il faudrait qu'ils se voient un peu plus. Vous
oui.
dites que c'est disponible sur YouTube?
Exactement, oui.
Ça aurait été bien que vous fassiez partie de la programmation du festival du documentaire qui se tient en ce moment?
Ah, j'aurais beaucoup aimé, mais je ne savais pas qu'il y avait un festival de documentaire. On aurait peut-être pu s'inscrire.
Ben oui, je vais vous envoyer le lien.
Ben, parfait, merci.
Et Ginny Lévesque, quelles sont les qualités principales d'un bon ou d'une bonne bénévole, selon vous?
Moi, je dirais d'abord, la bonne qualité, c'est de se connaître assez pour savoir c'est quoi nos aptitudes, dans quoi on va s'investir, parce que c'est pas tout de donner du temps, c'est de donner le temps dans ça dans quoi on est bon.
Mm-hmm.
Si on s'en va faire de l'accompagnement fin de vie, mais qu'on a peur de la mort, on peut nuire un peu qu'autre chose. T'sais.
Oui, tout à fait.
Fait que c'est vraiment de cibler qu'est-ce qui m'a intéressé, moi, dans ma vie au travail. Puis il y a encore des travailleurs en passant. Hein. J'ai beaucoup de bénévoles plutôt jeunes avec des enfants qui travaillent fort puis qui font aussi du bénévolat. Mais en gros, je dirais, c'est vraiment de bien se connaître assez pour avoir l'honnêteté de dire, moi, ça, je pense pas que c'est pour moi. Et ça, je pense que oui, c'est pour moi. Là-dedans, je pourrais être aidant.
Mm-hmm.
Une certaine disponibilité. Donc, si on dit, moi, je peux donner une heure par semaine, ben il faut pouvoir la donner cette heure-là, tu sais. Un engagement.
Oui, c'est ça, c'est un engagement, c'est important.
Un engagement. Tu sais, oui. On a un rôle à jouer quand on est bénévole, on s'engage, donc il faut qu'on puisse compter sur lui. Là. Si un bénévole dit, ben moi, oui, je suis là de telle heure à telle heure, puis qu'il ne se présente pas ou qu'il est toujours en retard, dans le fond, on a quand même un compte à rendre quand on est bénévole comme quand on est travailleur.
Mm-hmm. Mm. Tout à fait. Alors, Ginny Lévesque, un grand merci. Je vous souhaite un bon succès avec votre film « Le bénévolat, une force tranquille ». Et vous irez faire un tour sur le site des rendez-vous internationaux du documentaire de Montréal, RIDM. C'est facile à trouver, ce festival ou ces rendez-vous. C'est la 20e édition cette année, puis ça se poursuit encore quelques temps, jusqu'au 19 novembre. Mais on ira voir le bénévolat, une force tranquille. Merci pour ce documentaire, puis j'espère que ça va inciter les gens à faire du bénévolat, parce que ça fait du bien aux autres, puis ça fait du bien à soi.
Exactement, puis c'est essentiel. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Bonne journée à vous.
Au plaisir.
Bye-bye.
Une nouvelle sur lanouvelle.net, c'est dans le cadre du projet Rêve d'aînés de la table régionale de concertation des personnes aînées du Centre du Québec qu'une rêveuse a pu aller se ressourcer et profiter d'un paysage de rêve. Gisèle McClure est une résidente du CHSLD de Warwick. Son rêve n'aurait pas pu être exaucé sans le temps précieux et l'écoute attentive de Cassandra Lehoux, éducatrice spécialisée. Celle-ci a souvent écouté Mme McClure lui parler des belles images des jardins fleuris du parc Marie-Victorin, qu'elle voyait à la télévision. Pour elle, c'était un rêve impossible car elle se déplace en fauteuil roulant et n'a pas de famille pour lui permettre de réaliser un tel souhait. Madame McClure a pu voir son rêve être exaucé. L'agente de projet Rêve d'aînés à la table régionale de concertation des personnes aînées du Centre du Québec, Mélisa Lotinville, a tout mis en œuvre afin de faire vivre un après-midi de rêve à Mme McClure. C'est avec le soutien de la Fondation de l'Ermitage qui, sans son aide, le transport de Mme McClure vers son endroit de ressourcement n'aurait pu être possible. Un cadre assemblé de photos souvenirs lui a été remis et il se trouve désormais sur la table de chevet de Gisèle McClure. Il aurait fallu que vous soyez là pour voir les yeux de Mme McClure s'illuminer lorsqu'elle a constaté par une magnifique journée ensoleillée que son rêve devenait réalité. Ça valait tout l'or du monde. Les rêves d'aînés, par leur simplicité, nous ramènent souvent à l'essence de la vie. Le projet Rêve d'aînés est réalisable grâce à la contribution financière du programme Québec Amis des aînés. Les projets s'échelonneront jusqu'en décembre 2018. Dans le droit.com, besoin urgent d'une réglementation. Victime de vol et d'une concurrence de plus en plus féroce dans le marché des bacs de dons, l'organisme Grand Frère, Grande Sœur de l'Outaouais implore la ville de Gatineau de se doter d'une réglementation à la matière, un changement jugé urgent par la conseillère municipale Louise Baudria. Peu importe le quartier où l'on se trouve à Gatineau, il n'est pas très difficile de trouver un bac ou déposer des articles ou vêtements usagés. Pourtant, en vertu du règlement d'urbanisme en vigueur, les boîtes de dons caritatifs ne sont pas autorisées sur le territoire, indique le service des communications de la municipalité en précisant toutefois que la ville tolère ce genre d'installation. La situation est toutefois appelée à changer. La ville a récemment mandaté l'organisme sans but lucratif 3R Québec pour dresser un portrait des boîtes de dons installées et utilisées sur le territoire gatinois. Un mandat d'accompagnement auprès des organismes œuvrant dans la récupération ou la valorisation des matières résiduelles a aussi été confié à 3R Québec. En parallèle, le plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020 de la Ville prévoit de proposer une réglementation sur les boîtes de dons, entre autres pour veiller à ce que seules les boîtes dont les propriétaires sont des organismes locaux d'entraide ou de réduction de déchets soient permises. Pour la conseillère Louise Baudria, le marché des bacs de dons, c'est du n'importe quoi en ce moment et il faut que ça arrête. Pour moi, c'est une situation urgente parce qu'il va y avoir un effet néfaste pour des organismes qui ont besoin de ces revenus-là pour donner des services à nos citoyens, lance Mme Baudria. Le FAS prend position à la suite de la publication du rapport annuel 2017 de la protectrice du citoyen, Mme Marie Rinfray. Mathieu Franqueur, coordonnateur Mouvement des personnes handicapées pour l'accès aux services, donc le FAS, bonjour.
Bonjour Mme Denis, ça va bien?
Oui, merci. Et vous?
Oui, merci.
Ça me fait plaisir de vous reparler.
Ben oui, certainement.
Alors, quel constat faites-vous à la lecture du rapport 2017 de la protectrice du citoyen?
Ben malheureusement, encore une fois cette année, la grosse partie du rapport, c'est les services de santé, services sociaux et les problèmes d'accès et les problèmes de difficulté d'avoir des services de qualité, des services dans des temps raisonnables, on pourrait dire. Donc,
c'est déjà vu.
Mm-hmm. Ça fait plusieurs années que le rapport pourrait presque être du copier-coller, mais malheureusement, c'est encore pire en raison de la dernière réforme et des dernières réorganisations dans le réseau de la santé et des services sociaux. Donc, c'est certains problèmes qui s'accentuent. On a des statistiques là-dessus. Il y a des cas individuels parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes. Il faut dire que les plaintes en santé et services sociaux ont augmenté de 30% cette année par rapport aux trois dernières années.
Ah oui.
Donc, c'est assez parlant, oui.
Vous avez titré une chronique publiée dans le HuffPost Québec, « Soutien à domicile, état de panique ». Pourquoi?
Bien, le soutien à domicile, c'est un des problèmes, c'est assez connu dans les médias, on en parle souvent, c'est un des problèmes importants d'accès aux services en santé et services sociaux. On a parlé plus dans les médias par rapport au rapport de la protectrice des personnes âgées, mais les personnes handicapées, les personnes en situation de handicap sont très touchées aussi, puisqu'ils dépendent beaucoup aussi du service de soutien à domicile pour ne pas se retrouver en institution, comme en CHSLD par exemple. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que de plus en plus, les critères d'attribution sont resserrés, le temps alloués à chaque tâche est resserré aussi. Le nombre de services est diminué de façon souvent arbitraire, sans évaluation pour les personnes. Donc, on parle ici de services assez basiques, là, comme s'alimenter, assurer son hygiène, faire ses courses, son ménage, des gens qui ont besoin d'aide pour rester à la maison, parce que le choix qu'on s'est fait socialement depuis quelques années, c'est de garder le plus longtemps possible les gens à la maison, surtout des gens qui ont un handicap, qui ont souvent dans la trentaine, dans la quarantaine. Et là, ce qu'on voit, c'est que des gens sont dépendants soit de proches aidants, soit du privé, doivent payer pour des services pour pouvoir rester à la maison. Donc, ça a des conséquences assez importantes.
La protectrice du citoyen parle de laxisme.
Oui, de laxisme. Le problème, c'est qu'il y a des plans qui sont faits pour dire on va augmenter de 15% le nombre de personnes qui vont avoir accès à des services de soutien à domicile, par exemple. On constate dans le rapport, c'est que dans la dernière année, il y a eu une diminution de 1% du nombre de personnes qui ont accès aux services de soutien à domicile. Et comme je vous disais, le temps d'exécution a diminué de 7%. Donc, quand un préposé, un auxiliaire va faire un service, il passe moins de temps, il est plus pressé parce qu'il y en a plus à faire dans la journée. Donc, tout ça, c'est relié, évidemment, malheureusement, aux compressions et aux réorganisations.
Oui. Et que dit la protectrice du citoyen en matière d'hébergement pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme?
Bien là, c'est encore plus inquiétant, je dirais. C'est un sujet qui est moins...
Tantôt on paniquait, mais là, on surpanique, si je peux inventer ce mot-là.
Oui, ça pourrait être ça, une bonne image. Mais le problème, c'est que là, on parle de gens qui ont une autre type de vulnérabilité encore plus forte, c'est-à-dire en déficience intellectuelle ou trouble du spectre de l'autisme, avec déficience, avec trouble du comportement. Ce qu'elle constate, c'est que elle a été obligée de fermer, de recommander la fermeture de 3 ressources intermédiaires dans la dernière année. Ça, c'est des ressources privées qui ont un contrat avec le ministère de la Santé pour héberger des personnes, un petit nombre, là, 4 et 8 personnes, mais ces ressources-là sont souvent sous-financées, évidemment.
Ce qu'on appelle les ARI, là, les ressources intermédiaires?
Dans le langage, c'est le ARI, exactement. Ouais. Dans le langage des initiés, c'est le ARI, exactement. Ouais. Donc, c'est une des solutions qui avait été faite à l'époque pour la désinstitutionnalisation des personnes. Mm-hmm. Sauf que de plus en plus, ils ont été laissés à elles-mêmes. Et là, il y a des catastrophes qui arrivent. Ils sont obligés d'enfermer parce que les services sont pas donnés. On parle même de services alimentaires de base, mais on parle même pas d'intervention. Donc, ce qu'elle constate, entre autres, c'est l'insuffisance du personnel et son manque de formation. Des pairages entre personnes qui est inapproprié, des personnes qui n'ont pas les mêmes, qui ont des problèmes complètement différents, des délais quand les gens veulent être logés parce qu'il y a un problème, au niveau de la gestion des comportements difficiles, c'est parce qu'on parle de personnes souvent de préposés à 12 $ de l'heure qui n'ont pas de formation d'intervention et qui se retrouvent à gérer des cas très, très lourds. Et donc, et ce qu'il y avait d'intéressant plus dans le passé, c'est qu'il y avait des intervenants, des travailleurs sociaux du réseau qui allaient sur place, qui faisaient des plans d'intervention, des activités. Et là, il y a moins en moins de ça. Donc, c'est une autre conséquence du désengagement un peu de l'État par rapport aux personnes vulnérables.
Qu'est-ce que vous proposez comme solution?
Bien, dans le cas des ressources intermédiaires et de l'hébergement des personnes avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, on propose un rehaussement des budgets, c'est original, mais c'est un peu ça, souvent le nerf de la guerre, c'est-à-dire que les ressources aient des budgets pour engager des personnes mieux formées, des personnes plus compétentes et des personnes qui ont les capacités pour s'occuper de ces gens-là. Et aussi d'évaluer ces gens-là, parce qu'on les a mis dans ces ressources-là depuis plusieurs années, puis on les laisse là, on ne sait pas trop leur état s'est amélioré, détérioré, donc une meilleure évaluation et, comme je vous disais, un meilleur encadrement aussi de ces ressources-là. Et il faut savoir aussi que les ressources intermédiaires ont aussi des délais d'attente, des fois de plusieurs années. Donc, on est toujours dans la même logique de ne pas réinvestir, garder ça au minimum, puis de compter beaucoup sur les proches aidants et les familles pour s'occuper de ces gens-là.
Vous ne baissez pas les bras?
Bien, on continue à se battre puis à alerter les gens pour essayer d'avoir... on a une année électorale qui s'en vient, on peut peut-être espérer des résultats puis des promesses qui vont se concrétiser.
Oui, pour avoir des petits miracles. Mathieu Francoeur, coordonnateur au Mouvement des personnes handicapées pour l'accès aux services. Un grand, grand merci. Bonne continuation. Et je voulais vous informer, peut-être que vous êtes déjà au courant, la protectrice du citoyen, Mme Marie Rinfret, sera à accès libre ce midi avec mon collègue Benoît Racette. Alors, à ne pas manquer.
Ah, je vais écouter ça. Merci,
au plaisir. Au revoir.
Au plaisir.
Des nouvelles mesures pour les proches aidants et les parents. C'est sur le site de Radio-Canada. Les nouveaux parents canadiens, à l'exception de ceux du Québec, pourront, dès le mois prochain, étaler leurs prestations fédérales de congés parentaux sur une plus longue période. Ottawa a aussi annoncé que des prestations d'assurance-emploi pourront être accordées pour prendre soin d'un adulte ou d'un enfant à compter du 3 décembre. D'une part, Ottawa prolongera la durée des congés parentaux pour les employés d'entreprise qui relèvent du fédéral à l'extérieur du Québec. La prestation remise à l'un des deux nouveaux parents pourra être étalée sur 18 mois au lieu d'un an, mais elle ne sera pas plus généreuse. Cette mesure, qui entrera en vigueur dès le 3 décembre, permettra aux parents de prendre 18 mois de congés avec des prestations d'assurance-emploi de 33 % de leurs revenus. Auparavant, ils pouvaient prendre un an de congés avec des prestations de 55 % de leurs revenus. Le congé payé pour venir en aide à un adulte blessé ou gravement malade sera d'une durée maximale de 15 semaines. Lorsqu'il s'agira d'enfants blessés ou malades, Ottawa maintient la durée du congé à un maximum de 35 semaines. Le gouvernement fédéral apporte toutefois quelques changements. Outre les médecins spécialistes, les omnipraticiens et le personnel infirmier pourront signer le certificat attestant que l'enfant est gravement malade. Un membre de sa famille élargie pourra maintenant bénéficier de cette mesure. L'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick voit d'un bon œil ces mesures, notamment en raison du vieillissement de la population. Renouvellement de licence, Canal M a besoin de votre appui. Canal M, la radio de Vues et Voix, a déposé une demande pour le renouvellement de sa licence de radiodiffusion auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, CRTC, afin que notre chaîne soit conservée dans le forfait de base des câblos distributeurs. Le processus de renouvellement de la licence est ouvert au public et Vues et Voix souhaiterait que vous participiez en grand nombre en nous apportant votre appui et vos commentaires. Faites savoir au CRTC pourquoi Canal M est une radio importante pour vous. Comment nous aider? Consultez l'avis de consultation et exprimez vos commentaires et appuis en complétant le formulaire en ligne du CRTC. La demande de renouvellement et tous les documents reliés sont disponibles sur notre site Vues et Voix, sur Facebook et aussi sur Twitter. Vous avez jusqu'au 8 décembre pour vous exprimer. C'est tout pour les paractualités de ce 14 novembre. Merci à mes invités, Jenny Lévesque et Mathieu Franqueur. Merci à mon équipe, Anne-Laure Janson à la recherche et Maurice Bolduc à la mise en onde. Ici Hélène Denis. Passez une belle journée. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. À bientôt.